On continue en compagnie de Marie-Laure Garcia-Mahé. Marie-Laure, tu es là ?
Oui, je suis là. Bonjour.
Bonjour Marie-Laure.
Bonjour.
Donc, on est bien content de t'avoir au bout du fil. Tu vas nous parler de cette marche pour diverses raisons. La première, c'est quand même que tu y as participé. Et la deuxième, c'est aussi que le 14 novembre, tu as sorti un livre qui s'appelle En Marche aux éditions Socris, où donc, à travers une fiction, tu racontes cette aventure-là.
Voilà, tout à fait.
Donc, peut-être on va partir de ton expérience, de ton vécu, et à savoir donc ta participation à cette marche. Est-ce que tu peux rapidement nous rappeler le contexte, cette année 1983, d'une part, et puis après aussi nous expliquer comment toi, tu t'es inscrite dans cette aventure ?
Oui, alors en 83, c'est ce qu'on a appelé l'été meurtrier. Parce que un nombre très important de jeunes mouraient par balle, soit tués par ce qu'on appelait les tontons flingueurs, soit par donc armés de 22 longs rifles.
Les tontons flingueurs, c'est-à-dire les Dupont-Lajoie, les gens du coin.
Voilà, tout à fait. Ou alors également par des policiers. Moi, je ne savais pas tout ça. J'étais jeune éducatrice en formation à Paris et j'étais informée de cela à l'occasion de la mort de Toufik Ouanès, qui a été tué dans sa cité des 4000 à La Courneuve par un résident. Mais Toufik Ouanès n'avait que 9 ans. Et quand cet enfant de 9 ans est tombé sous les balles de son voisin, en fait, parce qu'il faisait, semble-t-il, un peu trop de bruit en bas de chez lui, avec d'autres enfants du quartier avec qui il jouait. Ça a ému la France entière, et en tout cas, ça a donné lieu à des articles de presse qui ont relaté ce crime, mais également le crime d'autres personnes, donc, et issus aussi de l'immigration, mais qui étaient des jeunes gens plus âgés, quoi, qui avaient 18-20 ans, en gros. Donc, il a fallu que ce soit un enfant de 9 ans qui meure pour que la grande presse s'empare de ce phénomène, on va dire, qui dépassait largement, je dirais, l'accident mortel de cet enfant, mais bien, enfin, le crime de cet enfant, mais bien toute une jeunesse qui était visée. Et du coup, j'ai su, moi aussi, que, parce qu'évidemment, avant ça, l'opinion publique générale l'ignorait, j'ai su que quand on avait 18, 19, 20 ans, enfin 25 ans, on pouvait facilement tomber sous les balles de criminels racistes. Voilà, soit parce qu'on était passé trop près d'une voiture et que le propriétaire pensait qu'on allait peut-être voler l'autoradio, ou que on avait parlé à une jeune femme blanche, parce que des fois certains ont pu dire il a parlé à la femme blanche, c'est pour ça que je l'ai tué, ou plus couramment aussi dans le cadre de rixes avec la police, où finalement le coup de feu était souvent la façon de clôturer l'affrontement, quoi.
Mais moi j'ai l'impression qu'on est à cette époque-là, en tout cas en 83, j'ai l'impression qu'on était en pleine un peu comme si on était toujours en pleine période coloniale, parce qu'effectivement le meurtre de ce gamin et monté en épingle par les médias. Mais je crois qu'en 83, tu parlais là tout à l'heure de meurtres ou d'agressions. En l'espace de 2 mois, il y avait eu 42 meurtres ou agressions racistes qui avaient été perpétrés en France. Donc c'était peut-être pour les médias la goutte d'eau, mais en fait c'était le quotidien de tous ces gens-là, quoi, à cette époque-là.
Oui, tout à fait. Donc on peut même remonter à l'année 73, à Marseille, qui a été une année vraiment meurtrière pour la communauté. Alors, la communauté algérienne, c'est-à-dire que c'était vraiment elle qui était visée. Donc on est vraiment effectivement dans le prolongement du conflit de la guerre d'Algérie. Bon, en même temps, ceux qui meurent, c'est pas toujours marqué leur nationalité sur leur tête, hein, et en fait, il suffisait juste d'avoir un look, un profil d'immigré du Maghreb pour tomber sous les balles de milices racistes à Marseille, cette fameuse année 73. Après, c'était moins fort. Enfin, il y en a eu un petit peu moins, mais ça n'a jamais vraiment cessé. Et puis, dans les années 80, bah, Kader à Vitry, 15 ans, Lawari Ben Mohamed, 17 ans à Marseille, Zahir Boudjelal, 19 ans à Marseille aussi, Waïd Achichi, 18 ans à Lyon, Ahmed Bouteldja, 25 ans à Lyon, Abdenbi Gemia à Nanterre, 19 ans, voilà, à Nanterre, oui, c'est ça, à côté de chez moi, en fait, parce que moi, j'habitais à Nières. Et en fait, c'était en 82, c'est-à-dire, moi, j'arrive en octobre 82 à Paris, lui, il arrive, lui, il meurt en novembre 82. Et quand j'apprends cela à l'occasion du récit, on va dire, qui est fait dans la presse du crime de Toufik Ouanès, ben je me dis, ben finalement, à quelques kilomètres de chez moi, il y a un jeune homme du même âge que moi qui est tombé, quoi. Il s'appelait Abdenbi Gemia. Et à partir de là, un mois après, j'apprends qu'il va y avoir une marche pour l'égalité contre le racisme qui part à l'initiative de Jeunes de Lyon, et je décide de la faire.
Tu n'étais pas à cette époque-là ni engagée politiquement dans un parti, un syndicat, une association ou quoi que ce soit?
Non, ni dans un parti, je ne l'ai jamais été d'ailleurs, voilà, par la suite non plus, ni même un syndicat, et pas non plus dans des associations, parce que bon, bah, je venais d'arriver à Paris, j'avais pas encore vraiment de réseau, si ce n'est les jeunes éducateurs qui étaient dans ma promotion. D'ailleurs, j'ai amené une jeune femme avec moi, hein. Moi j'avais 21 ans, et Cécile, ma camarade de promo, avait 25 ans, quand je lui ai donc proposé de faire la marche avec moi. Nous n'étions ni l'une ni l'autre engagées sur ce terrain-là.
Et comment ça s'est passé? Comment vous avez pris contact avec les gens qui organisaient cette marche, ou vous êtes pointée?
Oui, non, on a pris contact, c'est-à-dire que quand on a vu l'info de cette marche dans le magazine de la FASTI, qui s'appelait Expression, donc la FASTI, c'est la Fédération des associations de soutien aux travailleurs immigrés, donc ils avaient un mensuel qui s'appelait Expression, que j'ai vu vraiment par hasard chez une copine, et donc en le feuilletant, je tombe sur l'annonce de la marche, et je dis à ma copine, je vais faire cette marche. Et donc j'en parle après à une autre camarade de promo. Et là, il y avait le téléphone de la CIMAD dans cet article. Donc nous téléphonons à la CIMAD, nous tombons sur Christian Delorme, enfin, ou du moins nous demandons à parler à Christian Delorme, parce que c'était
Christian Delorme, c'est donc le fameux curé des Minguettes qui a accompagné.
C'est lui qui était mentionné dans l'article, disant qu'il était co-organisateur avec les jeunes de SOS Avenir Minguette. Et donc, on lui dit, on est deux à venir de Paris, on aimerait faire cette marche, et est-ce que c'est possible? Et il dit tout de suite, oui, et même il nous accueillait à bras ouverts, très content qu'il y ait des personnes d'ailleurs, de Paris, puisque les autres venaient des Minguettes, et content aussi qu'on soit des filles, et peut-être aussi pas forcément issues de l'immigration, pour mixer un peu les participants. Peut-être dire aussi que le contexte que j'ai donné jusqu'à maintenant, c'est contexte général, mais à Lyon et à Vénissieux précisément, et aux Minguettes encore plus précisément, Toumi Djaïdja, donc le président de SOS Avenir Minguette, venait de se faire tirer dessus aussi par un policier le 19 juin, enfin dans la nuit du 19 au 20 juin. Alors qu'il essaye de dégager des crocs d'un chien policier à un jeune garçon qui était poursuivi, qu'il se débat avec ce chien policier, un policier lui tire dessus, alors qu'il était d'ailleurs à terre, Toumi, et un policier lui tire dessus, l'atteint à l'abdomen, et il va rester plusieurs heures entre la vie et la mort. Et quand il se réveille dans sa chambre d'hôpital, il dit à ses camarades, eh bien, écoutez, cette fois, on va faire une marche. Une marche.
Voilà. Oui, parce que la grève de la faim, effectivement, elle avait eu lieu avant aussi.
Voilà.
C'était
voilà.
Depuis 81, il me semble qu'il y avait eu des affrontements avec la police et qu'ils étaient rentrés, qu'ils avaient créé une association pour résister à cette situation.
Voilà, disons qu'ils avaient fait une grève de la faim en 81, effectivement, pour lutter contre les expulsions de jeunes qui subissaient la double peine. Donc pour dire non aux expulsions qui frappait des jeunes qui avaient déjà purgé leur peine là et qu'on frappait donc doublement en les renvoyant dans un pays qu'ils ne connaissaient pas. Donc ça, c'était une grève de la faim qui avait été menée en 81 par Christian Delorme, Jean Costil et un jeune qui était lui-même sous menace d'expulsion. Et en 83, les jeunes qui allaient faire la marche, ils n'étaient pas encore mobilisés sur la grève de la faim de 81. C'est seulement en 83 que donc ils ont fait une grève de la faim après la nuit du 21 mars, enfin la journée d'ailleurs du 21 mars, où des affrontements ont eu lieu entre la police et les jeunes. Et donc la police a débarqué au 21 mars et au matin très tôt, se faisant ouvrir les portes, et molestant les femmes, les mamans qui étaient là, les enfants, cherchant des choses dans les appartements, comme ça. Enfin, c'était très très violent. Donc les jeunes se sont interposés et après ça, il y a eu des incarcérations et là, les jeunes ont décidé de faire une grève de la faim. Donc la deuxième de leur quartier, on va dire. Mm-hmm. Et cette fois, ce sont 11 jeunes des Minguettes qui l'ont faite, accompagnés aussi quand même de Christian Delorme et Jean Costil. Et donc ils l'ont faite le 28 mars, une semaine après cette descente policière. Et le 12 avril, ils l'ont donc arrêté avec la promesse d'obtenir des chantiers.
Aïe.
Voilà, et ils ont obtenu cela, ils ont donc fait ce chantier d'insertion et donc ils ont obtenu de l'emploi dans le cadre de la rénovation de Tours aux Minguettes. Ils ont obtenu aussi la libération de personnes incarcérées abusivement. Et je pense que cela a été insupportable pour la police. Et c'est donc suite à ça qu'un flic a tiré sur Toumi. Mmh. Et à la fin de la... Enfin, au moment de la grève de la faim, ils ont aussi...
Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Ça nous coupe de temps en temps.
SOS Avenir Minguette, voilà.
Donc, ouais, je ne sais pas ce qui se passe sur la ligne, mais tu es coupé de temps en temps. Donc, ta dernière phrase est à la fin de cette grève, ils ont donc créé l'association Avenir Minguette, c'est ça?
Voilà, SOS Avenir Minguette. SOS en Avenir fait, Minguette. Elle était toute récente, l'association SOS Avenir Minguette. Elle date d'après le 21 mars. Mm-hmm. Et entre le 21 mars et juin. Voilà, et le mois de juin, il y a eu la création de cette association.
D'accord.
Donc Toumi était le tout jeune président de cette association, quand il s'est fait tirer dessus.
Et il était suffisamment en forme pour être au départ de Marseille le 15 octobre, malgré ce...
Oui, parce que finalement, ça s'est passé très 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 près d'un organe vital, vraiment très près, mais finalement il s'est remis assez au bout de quelques semaines... Il était sur pied.
Et donc au départ, c'est une quinzaine de personnes qui donc je crois que c'est le 15 octobre 83 qui partent de Marseille. Ces 15 personnes, c'est quoi? C'est un pari? C'est vraiment les gens qui y croient le plus? C'est
c'est donc 8 jeunes des Minguettes, 8 garçons des Minguettes, avec une fille aussi des Minguettes qui va repartir qui sera là juste le week-end. Christian Delorme et Jean Costil, Cécile et moi-même qui venons de Paris, une jeune femme qui vient d'Annecy, française, Didier Platon qui vient de la communauté de l'Arche, et puis un curé le plus âgé d'entre les marcheurs, donc un curé de 65 ans qui vient de Saint-Dizier. Voilà, donc un groupe assez improbable en fait, hein, pas du tout homogène. D'ailleurs, je rajoute aussi Daniel, qui était un saisonnier qui faisait la route, donc qui n'avait pas de domicile fixe et qui s'est aussi joint à nous. Donc un groupe très très hétéroclite.
Et pas du tout que de beurre, comme après on a pu laisser entendre en utilisant systématiquement cette expression et en zappant l'expression de marche pour l'égalité et contre le racisme.
Ouais, la marche
des... Voilà. Les seuls seule qui était, enfin, on va dire, qui font référence à ça, effectivement, à une origine du Maghreb, on va dire, c'était les jeunes des Minguettes, qui étaient 8. Et c'est tout, en tout cas au tout début, parce que, venant de cette région, enfin, en tout cas, ayant des parents venant de cette région, c'est tout. Parce que après, par contre, des ex, on a pris Bouzid Kara, et ensuite, on a pris Abed et Youssef de Firmini. Mais bon, tout ça, c'est en suivant la vallée du Rhône, on a pris progressivement d'autres jeunes, et effectivement, ces jeunes étaient, eux aussi, d'origine maghrébine. Voilà, et aussi à Seine et Arbi à Villefranche, ensuite Abdou à Besançon, voilà. Donc c'est vrai que les personnes qui se sont jointes par la suite, c'était aussi d'autres jeunes qui se sentaient concernés par les violences et par la discrimination.
Et la traversée de la France profonde, ça se passe comment ?
Bah, ça se passe dans une grande indifférence au départ. Voire même des moments d'hostilité, avec des moments de grande intimidation, avec le fusil, même des coups tirés qui ne nous atteignent pas, mais qui sont tirés, des insultes, des menaces, des bras d'honneur, ce genre de choses. Enfin, de temps en temps. Hein,
et de la part de la police ou de la gendarmerie, quelle attitude ?
Rien. De la part de la police et de la gendarmerie, rien. En tout cas, visiblement, parce que apparemment, ce qu'on croit comprendre maintenant, c'est que on leur avait demandé de nous protéger de loin, mais ça n'a pas été spécialement visible. En tout cas, au début, moi, j'ai pas remarqué qu'on ait été protégés. D'ailleurs, ça n'a pas empêché justement ces manifestations d'hostilité à notre égard. Hein. Donc, les flics étaient pas, on n'avait pas de protection à ce moment-là, contrairement à ce qu'on voit dans le film où. Dans le film, on voit aussi à un moment donné une hostilité et une volonté même de faire éclater la marche hein, de la part des renseignements généraux et puis ensuite de la soutenir. Bon, nous, l'État était juste observateur dans un premier temps et par la suite, quand ils ont vu que ça prenait à partir de Lyon, ils avaient un peu mission de nous protéger pour le coup. À partir de Lyon.
Oui, on était dans un État socialiste, donc obligatoirement, il fallait quand même rendre quelques comptes. Quoi, en
fait. Et alors, qu'est-ce qui fait que ça a pris, comme tu dis ? Qu'est-ce qui fait qu'au début, vous avez commencé à marcher dans l'indifférence, voire, comme tu disais, avec des manifestations d'agression ? Et qu'est-ce qui fait qu'au final, c'est arrivé à Paris et cette énorme manifestation ?
Peut-être déjà notre persévérance, c'est peut-être déjà une première chose, parce que c'est vrai qu'à persévérer jusqu'à Lyon, quand ces 8 sont partis des Minguettes, il faut savoir qu'il y avait quand même une majorité de jeunes qui n'y croyaient pas trop, hein, de jeunes et moins jeunes qui n'y croyaient pas trop. Donc déjà les voir revenir 15 jours après, en étant plus nombreux, en plus avec des Français, alors que quand même le sentiment c'était on est mal aimé, on est détesté, on nous tire dessus, la France est raciste. Donc quand ils nous ont vus, quand arriver les jeunes des Minguettes plus nous tous quoi, qui les accompagnons, et puis avoir parce qu'il faut quand même le faire, 15 jours c'est pas facile de marcher tous les jours 30, même s'il faisait pas trop froid à ce moment-là, mais quand même vers Lyon il commençait à faire un peu froid, il y avait la pluie, on est arrivé à Lyon sous la pluie, et puis on marchait quand même 30 km par jour, c'est pas du tout évident, donc je pense qu'on a un peu forcé l'admiration de quelques-uns. Et puis, surtout, évidemment, on arrive à Lyon. Donc là, il y a eu beaucoup de médias, et puis les familles nous ont évidemment beaucoup entourés, puisque c'était leurs enfants qui marchaient. On est resté 2 jours, donc il y a eu des conférences de presse importantes, un club de la presse aussi. On est allé dans les cités des environs. C'est là qu'on a pris à Seine et Larbi, à Villefranche. On est retourné à Villeurbanne d'où Fatima était issue, parce qu'il y avait aussi Fatima qui marchait avec nous. Fatima donc, n'était pas des Minguettes, mais elle était de la région lyonnaise. Donc on est parti aussi dans la cité Olivier de Serres, célèbre cité de Villeurbanne. Et là, tout le monde avait envie de marcher avec nous, en fait. Donc après, on est parti à Lyon. On est parti à Grenoble. Et à Grenoble, parce que les Grenoblois nous demandaient de venir, ils insistaient, c'était pas du tout prévu au départ, donc nous y sommes allés parce qu'ils ont vraiment insisté, et on a bien fait d'y aller parce que l'accueil était très très chaleureux et là-bas, et ils nous ont amenés partout, et on a été même obligés de se diviser pour pouvoir être dans différents endroits en même temps. Et là, on a dû arrêter le groupe parce qu'on ne pouvait pas être plus nombreux qu'une trentaine, quoi.
Donc, pour assurer la logistique, hébergement, voilà. Tout ça, tu veux dire?
Voilà, c'est ça. Donc on était 32, je crois, quand on a arrêté le groupe, de marcheurs permanents. Donc ensuite, on a fait, après Grenoble, d'ailleurs les Grenoblois nous ont accompagnés en nombre assez important dans les petites villes que sont Voiron et puis Les Échelles. Et puis après, ça a été Chambéry. Il faut dire qu'aux Échelles, on a eu encore une intimidation qui a consisté à nous crever les pneus de notre camionnette. Les quatre pneus étaient crevés. Mm-hmm. Bon, voilà, c'est très...
très élégant.
Voilà, c'est un sacré message, quand même. Je pense que ça devait être accompagné, d'ailleurs, de graffitis insultants, enfin, voilà. Et puis, c'est là, d'ailleurs, que les flics nous ont accompagnés très ostensiblement. Hein. Ils ont fait le retour avec nous, la sortie de Voiron, des Échelles, en étant juste derrière, quoi, juste derrière nous. Voilà. Après, il y a eu Chambéry. Après, on a quitté cette région des Alpes et on a repris la route principale. Mâcon, Chalon, ensuite Besançon, Dijon, Besançon. Et puis là, ça n'a cessé de monter. Arrive le 14 novembre, enfin donc le 15 en fait pour nous, puisque dans la nuit du 14 au 15, Habib Krimzi, jeune touriste algérien de 26 ans, se fait défenestrer dans le Bordeaux Vintimille. Donc ça c'est dans la nuit du 14 au 15, nous l'apprenons le lendemain.
Par trois légionnaires.
Par trois légionnaires, trois apprentis légionnaires. Et là, c'est le coup de massue. C'est le coup de massue, c'est-à-dire qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue? On arrête? Enfin, on était dans un état d'émotion qui faisait qu'on ne savait plus ce qu'il fallait faire et qu'on était vraiment désarçonnés, quoi, vraiment désarçonnés. Enfin, bon, voilà, c'était assez indescriptible. Je repense à mon livre parce que du coup c'est pas forcément le moment d'en parler, mais en vous en parlant je repense à ce que j'ai écrit dans mon livre, parce que j'ai essayé de décrire ce moment justement où on reçoit ça, quoi, alors chacun le reçoit à sa façon, quoi, mais vraiment c'est le coup de massue, quoi, hein, c'est... Et un désarroi, un effondrement complet, quoi. Des hurlements, des cris, c'était très, 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 très difficile, ce moment. Mmh. Et puis, où évidemment, quand même, la majorité des gens avaient forcément bien compris que tout ça était aussi pour nous inciter à lâcher et que c'était surtout pas ce qu'il fallait faire, quoi. Donc voilà, on a essayé de raisonner ceux qui disaient mais c'est pas la peine, on nous prend, on marche et on nous tire encore dessus, c'est de la provocation, on nous prend pour des moutons, jusqu'à quand ça va durer, il faut arrêter de faire les moutons, faut relever la tête, faut prendre, même certains disant faut prendre des armes, enfin. Et là, on a dit non, justement, c'est ce qu'ils veulent, donc on continue, quoi. Et voilà, donc on a continué, mais forcément, il y a eu beaucoup, beaucoup de soutien par la suite, et ça, la presse, évidemment, a relaté l'événement, et le mettant en résonance avec notre marche, et du coup, la marche a pris d'autant plus d'ampleur, voilà.
Et alors tu me racontais aussi qu'au cours de cette marche, donc dans les soirées quand vous étiez accueillis, il y avait beaucoup de réunions, de prises de parole, de débats, et que ça avait été pour toi l'occasion de faire une formation politique, enfin de découvrir tout un tas d'aspects de ce que c'est la République française, de ce que c'est la justice et des discriminations de cette société.
Ouais, tout à fait. Tous les soirs, nous avions un débat. Donc, au début, dans la vallée du Rhône, c'était une quinzaine de personnes. Voilà, très peu de gens qui nous écoutaient, plus en nous demandant pourquoi vous marchez. Enfin, qui étaient pas forcément des gens organisés. C'était plutôt soit des réseaux chrétiens ou pas forcément politiques. Voilà. Et puis, petit à petit, c'était des salles un peu plus pleines et plus mixées. Donc, il continuait à y avoir les réseaux chrétiens, les associations de solidarité, mais aussi des partis, des syndicats, donc surtout la CFDT, le PSU. Et puis après, beaucoup de groupes d'extrême gauche aussi qui étaient dans l'Est. Et moi, j'ai aussi été hébergée avec un autre marcheur dans une famille, chez un couple du PCI. Je raconte aussi ça dans mon livre parce que ça a été très formateur pour nous.
Est-ce qu'il y avait aussi des associations locales de quartier? Est-ce qu'il y avait aussi...
Et puis alors, tout à fait, on allait donc à chaque fois dans les cités. On passait par le centre-ville, parce que c'était un peu un passage obligé. Mais très rapidement, on était orienté vers la périphérie des villes où nous souhaitions rencontrer les populations confrontées aux mêmes problèmes que vivaient les jeunes des Minguettes ou d'autres banlieues. Donc on avait toujours c'était toujours très très chaleureux, quoi. On avait en général toujours un couscous. On en a mangé des couscous, hein, parce qu'à chaque fois c'était du couscous quand même. Mais bon, ceci dit, c'était tellement le plat qui nous convenait après avoir nous être refroidis sur la route que c'était super bien, quoi. Et puis après, dans l'Est, on avait toujours le thé turc. On a rencontré beaucoup de populations turques d'origine kurde ou turque. Et alors, c'était aussi une découverte, aussi bien pour moi que pour les jeunes des Minguettes, parce que nous n'avions jamais été dans ce coin de France et nous ne connaissions pas tellement la population immigrée turque ou kurde qui était minoritaire dans le reste de la France, qui était largement majoritaire vers Strasbourg. Et puis donc on rencontrait les jeunes, les associations qui soit venaient de se créer ou des groupes qui s'étaient pas encore créés en association mais qui l'ont fait juste après la marche. Voilà. Mmh. Et donc on débattait effectivement de quelle forme prenait la discrimination chez eux, quoi. C'était toujours un petit peu les mêmes choses: discrimination à l'emploi, discrimination à la formation, à l'accès à la formation, et puis des fois aussi le récit de violence qui avait pu aboutir à des blessés, voire à des crimes, puisqu'il y avait une jeune femme qui était venue, enfin une jeune fille qui était venue nous raconter la mort de son frère. Voilà. Mm-hmm. Donc c'était ça que nous vivions le soir.
Et donc...
Et puis après on avait un concert, un moment récréatif, festif, voilà.
Et alors, qu'est-ce qui vous ont servi à manger à l'Élysée? Parce que vous êtes arrivé à Paris, donc, et il y a même une délégation. Vous n'y étiez pas tous, je crois, reçus par Mitterrand.
Non. Alors, donc, après l'Est, on a, juste pour finir sur ce trajet-là, on a fait Metz et Nancy. C'était des villes très, très importantes aussi. Après, on a pris le train pour aller à Lille, parce que... Sinon, on aurait mis 2 mois et non pas un mois et demi. Donc, à Lille, à partir de Lille, on a fait une incursion à Bruxelles. Et puis après, on est descendu, enfin, pas tous, une délégation. Puis après, on descendait tranquillement vers Paris. Et arrivé dans la banlieue parisienne, bon, déjà, on avait compris, on avait eu des rumeurs comme quoi on allait être reçu par Mitterrand. Donc, là, il y a eu tout un débat sur est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas. Sachant qu'on avait compris qu'on n'irait pas tous. Alors, on se demandait pourquoi ils allaient choisir l'un plutôt que l'autre. Bon. Et finalement, ils ont choisi 8 personnes. Donc, je n'y étais pas, donc je ne peux pas vous dire
Mais est-ce que tu sais sur quels critères ils les ont choisis, justement?
Bon, je pense, quand même, j'imagine un critère de représentativité, déjà, hein, quand même. Donc, des garçons, des filles. Donc, 2 filles sur 8, donc une minorité. Mais bon, c'est vrai que nous étions aussi minoritaires, quand même, dans le groupe. Donc, 2 filles, une d'origine algérienne, une française, c'était ma camarade Cécile, donc élève éducatrice avec moi. Et puis, chez les garçons, il y avait Christian Delorme, forcément. Il y avait Toumi Djaïdja, donc forcément. Il y avait un deuxième des Minguettes, donc Djamel Attala. Et puis, il y avait aussi, Didier Platon de la communauté Lanza del Vasto. Donc, une certaine représentativité. Mais ce qui leur permettait aussi, peut-être, de ne pas prendre ceux qui avaient un casier judiciaire ou ceux qui portaient le kéfier. Parce qu'après, voilà, c'est ce qui nous avait été dit. C'est gênant d'avoir un casier judiciaire, gênant d'avoir un kéfier. Donc, il y avait des débats entre nous où certains souhaitaient carrément boycotter la venue chez Mitterrand. Bon, moi, j'étais de ceux-là. Alors, de toute façon, ce n'était qu'un... C'était même pas un repas. Ça a dû durer une demi-heure, trois quarts d'heure. C'était vraiment très formel et ce qui s'est dit, il n'y a eu aucune surprise. C'était juste, oui, je vous ai compris, c'est bien ce que vous faites.
Est-ce que cette délégation était allée là-bas avec des revendications collectives que vous aviez élaborées tous ensemble?
Non. On ne peut pas dire ça.
Après la marche, je crois qu'il y a eu des revendications qui ont été posées, la carte de 10 ans, quelque chose comme ça, non?
Oui, alors par contre, je réponds à... Est-ce qu'on a porté des revendications qu'on a élaborées ensemble? Non, parce que ça ne s'est pas fait comme ça. On ne s'est jamais mis autour d'une table en se disant qu'est-ce qu'on porte comme revendication à l'Élysée. Ni même décidé entre nous, même en dehors de l'Élysée, qu'est-ce qu'on porte comme revendication. La seule chose qui était notre message, c'était arrêter de nous tirer dessus. On demande l'égalité, la dignité, la justice. Donc c'était vraiment des principes, en fait. C'était beaucoup plus de principes Alors évidemment, on sait bien que ça s'accompagne d'une politique précise, mais nous, on n'allait pas jusque-là, parce qu'on n'était pas formés à avoir des idées précises là-dessus. Par contre, on rencontrait tout un tas de gens qui, bien sûr, nous disaient, la carte de 10 ans, il faudrait peut-être que vous la demandiez, parce que vous... est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ont des récépissés, qui ont des durées de validité pour une carte de travail qui ne correspondent pas à la durée de validité de la carte de séjour? Personne ne le savait, parce que beaucoup étaient français, et ceux qui avaient des papiers algériens, les Algériens n'étant pas concernés par ce statut, enfin ayant un statut à part, ils ignoraient ça. Donc nous, c'est des revendications qu'on a découvertes, qui étaient portées par des associations, et bien évidemment, on les a reprises. Mais on les a reprises, je dirais, en faisant confiance. On n'a pas été voir, on ne s'est pas emparé du dossier comme des techniciens. On leur a fait confiance, on leur a dit « oui, vous avez raison, bien sûr, il faut la carte unique de 10 ans. On est d'accord, on en parlera. » Et effectivement, on l'a demandé. On n'est même pas tous au clair là-dessus, si on l'a demandé, pas demandé. La personne qui est censée l'avoir demandé se rappelle même plus qu'elle a demandé, d'ailleurs. Elle dit oui, je sais, on me dit que c'est moi qui en ai parlé à Mitterrand, je ne me rappelle même plus. Enfin, voilà. Donc, toujours est-il... Pourquoi je dis ça? Parce que c'est pour dire que à ce moment-là, il n'y avait pas que nous en jeu. Il y avait des gens qui étaient en soutien à nous, qui portaient, eux, ces revendications. Mmh. Et donc, bien sûr, il y avait des groupes de pression qui exigeaient cette carte de 10 ans. Et c'est très bien qu'on l'ait eue, bien sûr. C'est très, très bien qu'on l'ait eue.
Vous, votre message, c'était clair, c'était la marche pour l'égalité et contre le racisme.
Ouais.
Et du coup, comment tu analyses, toi, le fait que ça se soit transformé en marche des beurs? Comment ça se fait que malgré le fait que vous attachiez, et encore aujourd'hui avec toutes les commémorations, etc., qu'on entende parler systématiquement de marche des beurs et que ce que vous portiez à l'époque, de marche pour l'égalité et contre le racisme, ça passe en second plan?
Je pense que il y a dû avoir un effet médiatique. Je pense que... Bon, et puis... en même temps, on demandait l'égalité, mais l'égalité, on la demande. C'est toujours un rapport entre une population et une autre. Donc, parler d'égalité, c'est aussi quand même parler de ceux qui n'en bénéficient pas. Il ne s'agissait pas non plus d'occulter le fait qu'il y ait des jeunes issus d'immigration qui marchaient. Mm-hmm. C'est pas pour rien que c'est quand même eux qui marchaient, qui en étaient les initiateurs. Ça, c'est quand même important aussi à préciser. Donc, dire marche des beurs, non, parce qu'effectivement, c'est pas justement eux qui veulent des revendications spécifiques en tant que beurs, puisque justement, ils veulent l'égalité. Donc là, là-dessus, c'est tout à fait juste. C'est hyper important d'insister sur la revendication d'égalité. Mais bon, en même temps, qui la demande d'égalité, c'est bien ceux qui ne l'ont pas. Et ceux qui ne l'ont pas, c'est ceux qui sont, alors qu'ils sont français en plus, justement, qui devraient l'avoir. Mais comme ils sont d'origine X ou Y, ils ne l'ont pas. Donc forcément, il y a un focus des médias sur cette population. C'est pas anormal, mais en plus on a tellement traité cette population de délinquants, de comment dire, non intégrables, de je sais pas moi, ceux qui font, enfin, avec tous les stéréotypes qui égorgent le mouton dans la baignoire, qui sont des casseurs de voitures ou je ne sais quoi, ou de rodéo ou de machin, que donc, je pense, les médias eux-mêmes avaient envie de montrer un autre, d'avoir un autre discours. Et du coup, parce que d'ailleurs, dans les médias, il y avait des journalistes qui avaient déjà envie depuis longtemps de dire autre chose, mais qui, après, il y a une parole unique, hein, le phénomène de la pensée unique, il est partout, et donc ceux-là s'exprimaient peu. Alors là, justement, c'était l'occasion pour eux d'exprimer ce qu'ils savaient déjà depuis longtemps, à savoir que, évidemment, il n'y a pas que des casseurs dans les cités, il n'y a pas que les gens, d'accord, ils pratiquent leur religion, mais c'est aussi des travailleurs, des militants, des pères de famille, des mères de famille qui s'occupent de leurs enfants, etc. Et donc, les médias ont commencé à avoir un discours plus normalisé, enfin, normalisant ou normalisé, je ne sais pas, enfin, disant, ils sont comme tout un chacun, c'est des familles. C'est des familles parmi les familles qui vivent en France. Il y a eu un autre regard porté sur cette population. Donc les médias et aussi les sociologues qui avaient déjà des analyses mais plus justes, mais qui n'avaient pas voix au chapitre en fait, et qui finalement du jour au lendemain ont pu voir leurs analyses ignorées, qui étaient ignorées jusque-là, être entendues. Donc c'est quand même une certaine population dont on parle. Donc après, c'est vrai que c'est gênant de dire marche des beurs, parce que si c'était compris comme marche d'une partie à part de la population et pour elle-même et uniquement pour elle-même, c'est faux. Voilà.
Quelles ont été les retombées de cette marche ? Parce que quand on le regarde par la lorgnette de l'histoire, on voit qu'un an plus tard, en 84, c'est donc l'avènement des SOS Racisme. Est-ce que toute cette belle énergie qu'il y a eu, en tout cas spontanée, en 83, j'ai l'impression que l'année d'après, elle a été un petit peu récupérée politiquement, quoi, pour essayer de la mettre dans une case, tout en sachant aussi qu'en parallèle, c'est les premiers scores, c'est là où le Front National va se mettre à cartonner dès 84. Donc les retombées, elles sont... j'ai l'impression qu'il y a eu... qu'on a essayé un petit peu de canaliser tout ça, quoi.
Il y a quand même eu donc des retombées qui sont, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, un regard porté sur les populations d'origine étrangère, complètement différent quand même, un regard globalement moins stigmatisant, globalement. Il y a même eu carrément, c'était presque une mode à un moment donné, on disait « beurre is beautiful », c'était bien d'avoir un prénom du Maghreb, c'était même tendance.
La Roromania, comme disait Rachida.
Dans le showbiz, voilà, dans le showbiz, dans la presse. Enfin, d'ailleurs, beaucoup se sont révélés d'origine maghrébine, alors qu'ils professaient déjà, hein, tant que soit journaliste, enfin, ou en tant qu'artiste, comédien, chanteur, etc. Donc, c'était assez tendance, donc, de le dire. Et du coup, forcément, si ça a eu lieu, c'est qu'il y a eu un autre regard porté sur cette population. Et puis pour ceux qui sont des familles lambda, ben au moins voilà, on les voyait comme des gens normaux, quoi, sur lesquels il n'y avait pas à stigmatiser toujours l'attitude, ou voilà. Donc ça, c'est quand même ce qui a changé, je pense. En positif. Après, les crimes racistes, ils ont diminué puis réaugmenté. Ce qui a changé, c'est pas tant la diminution des crimes racistes. Moi, je pense il y a eu beaucoup de crimes racistes, même en 84. Des crimes policiers aussi, notamment, 84, 85, 86. Très fort, enfin, en nombre. Néanmoins, le traitement judiciaire est différent. Ça aurait été inimaginable que la mort d'un jeune passe en correctionnel. Donc là, les criminels allaient aux assises. Enfin, après, si c'est un flic qui a tiré, c'est encore autre chose. Quand même, on a obtenu un traitement judiciaire un petit peu plus proche de la normale. Donc ça a changé quand même beaucoup. Et puis, par contre, la récupération... Alors bon, la carte unique de 10 ans, c'est quand même une bonne chose, je pense, pour la plupart des populations. C'est important de le dire, d'ailleurs, parce que après on a voulu la remettre en cause. Donc, faut se méfier aussi de dire « ouais, c'est rien ». Non, c'est quand même important, la carte unique de 10 ans. En tout cas, on s'en rend compte quand il est question de quand elle est menacée, quoi. Hein. Donc on est fiers d'avoir pu contribuer à ça, même si ce ne sont pas les marcheurs eux-mêmes qui l'ont revendiqué au départ, et si c'est bien un mouvement associatif ancien qui avait préparé ça. Alors après, la récupération. Alors juste après la marche de 83, il y a eu un groupe de gens dont j'ai fait partie, qui ont créé Convergence 84. Et Convergence 84, ça se voulait être un peu une façon de transformer l'essai de la marche, en faisant un mouvement plus autonome, c'est-à-dire plus autonome par rapport au réseau chrétien qui était très présent avec les marcheurs, en soutien aux marcheurs. Et donc moi j'étais avec des jeunes, parce que je suis restée à Paris forcément, puisque j'habitais Paris à l'époque, donc je suis restée avec les copains de Paris, les militants, les jeunes qui avaient accueilli la marche et qui disaient il faut enfoncer le clou, mais de façon autonome, sans les curés, sans la Ligue des droits de l'homme, sans le MRAP, sans la CIMAD, mais nous en auto-organisés. Et c'est comme ça qu'on a fait Convergence 84. Donc un mouvement plus autonome et puis aussi un mouvement plus ouvert. C'est-à-dire qu'on ne voulait plus rester dans le débat franco-maghrébin, mais plutôt dire il y a aussi d'autres populations dans ce pays qui sont d'origine portugaise, qui sont d'origine subsaharienne, qui seront bientôt d'origine asiatique. C'était les tout débuts, mais déjà présents, qu'on ne voyait pas beaucoup, mais qui existaient. La France de demain, elle viendra de partout. Et donc, c'est comme ça qu'on a fait Convergence 84, qui est un mouvement un petit peu artificiel, qu'on peut lui reprocher ça, très symbolique, en fait, très conceptuel, on va dire, qui était de faire une sorte de portrait de ce qu'allait être la France du lendemain, des années à venir. Mmh. Voilà. Et alors, c'est en fait ce mouvement-là qui a été mis sous le boisseau, enfin qui a été écrasé en fait, voilà, par la venue des SOS. Et c'est vraiment quand nous on a créé Convergence que dans le même temps SOS Racisme a été inventé. Mmh. Vraiment pour casser surtout même le Convergence.
Et puis pour casser aussi cette idée de lutter contre le racisme politiquement sur le terrain de l'égalité et de la justice sociale, alors que là, on tombe sur le côté de la morale et de c'est pas gentil.
Ouais. Voilà,
et de mon pote, quoi.
Voilà.
Comment, ça, comment vous avez vécu ça, vous, les marcheurs ?
C'est... Ah ben, alors, les marcheurs eux-mêmes, comment ils l'ont vécu, j'en sais rien, parce qu'on n'était plus en tant que marcheurs.
Vous n'êtes pas resté un groupe...
On n'est pas du tout resté un groupe de marcheurs. On est tous repartis dans nos banlieues ou villes, ou cœur de ville, pour certains. Moi, je suis restée à Paris, je dirais, seule marcheuse, hein, parce que ma copine, ensuite, elle a fait autre chose, ma camarade de promo. Et puis, ceux avec qui j'étais, c'était des militants, d'ailleurs, je partage quand même l'expérience de la marche, mais qui sont pas des marcheurs. Si c'est comment on l'a vécu, nous, en tant que marcheurs, j'ai jamais eu l'occasion de partager avec des marcheurs, cette question-là. Par contre, avec les gens de Convergence, avec les gens de l'ANJ, de Radio Beurre, enfin des militants de Paris et de la banlieue parisienne qui ont mis en place Convergence 84, comment on a vécu cette récupération par SOS? On l'avait très 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 mal vécu, on a essayé de résister à ça, mais on n'avait pas les forces, on n'avait pas les forces du tout. On sait très bien les appuis médiatiques et financiers dont SOS a profité et a bénéficié, donc on faisait pas le poids par rapport à ça.
Et aujourd'hui, alors, 30 ans après, parce que j'ai pas l'impression que pour l'anniversaire des 10 ans ou pour l'anniversaire des 20 ans, on en ait autant parlé. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas seulement ce film avec Jamel Debbouze, quand même. Qu'est-ce qui se passe, à ton avis, pour que cette commémoration soit aussi présente médiatiquement? C'est le climat de la France?
Bah, le climat, oui, il y a quand même beaucoup de points communs. Bon, ça fait un moment qu'on dit ça, hein, puisque même, c'est un peu, en fait, depuis que Hollande, donc depuis le printemps 2012, on fait beaucoup de comparaisons entre la France de 80, des années du début de 80, et puis la France de 2012-2013. La situation économique... Les quartiers ségrégés, l'arrivée de la gauche au pouvoir, donc on fait beaucoup de parallèles comme ça. Alors du coup, bah effectivement, la marche de 83 en 2013, ça paraît logique de l'inscrire un peu dans ce paysage là. Après, comment c'est utilisé, est-ce que ça va être utilisé pour dire je vous ai compris, un truc comme ça qui dit nous socialistes, de même que Mitterrand l'a fait en 83 et vous a reçu, on est attentif à votre discours, au message de la marche, et on veut le revaloriser par rapport aussi aux tensions qui...
Et alors ils font ça, ils vous draguent en ce moment ou quoi?
Ouais, on peut dire qu'il y a un côté comme ça, oui, il y a un petit peu de ça. Ils nous draguent un peu, oui, c'est vrai. Parce que
j'ai l'impression qu'ils vous draguent carrément, puisque, alors je ne sais pas si tu en fais partie, mais vendredi, je lisais que des militants ayant participé à cette marche ont annoncé donc la création d'une association pour dénoncer les récupérations politiques et mercantiles à l'occasion du 30e anniversaire de cet événement. Est-ce que ça te dit quelque chose?
Oui. On a créé une association de marcheurs. Effectivement, qui a un site, donc qui a assez peu, qui a pas trop de contenu pour l'instant. Au début, il s'agissait de faire un site mémoriel un peu au sens où, beaucoup de choses se sont dites aussi. Tout le monde récupère la marche. Hein. Je veux dire, ça va des réseaux les plus, les moins politiques. Qui font de l'antiracisme moral, on va dire, moralisateur, aux indigènes de la République. C'est très très large, ceux qui se réclament héritiers de la marche. Donc, et puis chacun il dit son truc en disant c'était comme ça. Même si c'est faux, hein, en disant c'était comme ça, il y avait ci, il y avait ça, en se réclamant marcheur au passage. Donc, il était temps que les marcheurs eux-mêmes, déjà se rassemblent, se retrouvent, parce qu'on s'était perdu de vue depuis 30 ans, quand même, pour la plupart. et d'ici de se compter et puis de faire un site qui refixe un peu ce qui s'est passé il y a 30 ans. Donc ça, c'est l'objet du site et de l'association.
Et comment il s'appelle ce site ?
Je ne sais même plus comment il s'appelle, en fait. Il s'appelle site officiel. Il doit s'appeler site officiel de l'association des marcheurs de 83. Mais voilà,
d'accord.
Site officiel. Mais je ne connais pas l'adresse parce que...
Ça doit se trouver facilement.
Voilà. Donc, Jamel Atala est le président de cette association. Le président d'honneur de cette association est Christian Delorme. Donc voilà, c'est quand même des références importantes. Et puis après, il y a tous les marcheurs, on est cités. Hein. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'on voit qui est qui, où chacun a pris la marche, les uns et les autres, où est-ce qu'on a commencé à marcher et qui on est. Donc c'est assez, pour ça, c'est cet intérêt-là. On a aussi le comment ça s'appelle, l'itinéraire de chaque, de la marche. Et jusqu'ici, ça n'allait pas au-delà. Alors là, j'ai effectivement vu moi-même ce matin qu'il y avait un message, ou hier soir, je ne sais plus, qui appelle à la... Enfin, qui met en garde contre toute récupération. Oui, oui, j'ai vu ça. Mais bon, ça n'a pas fait vraiment l'objet d'une... Enfin, voilà, d'une discussion...
C'est sûr que vu tous les échos médiatiques...
on va dire, parce que effectivement entre nous on s'est dit voilà, on s'est dit oui, chacun on est dragué, effectivement on le constate, puisqu'on est reçu chez l'ami, on est reçu chez Taubira, on est reçu
d'accord, là j'espère que vous êtes reçu à déjeuner ce fois-ci, que c'est pas un petit quart d'heure avec un jus de fruits, et merci, bonsoir, je vous ai compris, merci, à la prochaine.
On est reçu à déjeuner, effectivement. Enfin bon, on ne dit pas beaucoup plus de choses, hein, mais quand on déjeune. La parole est libre quand même, c'est après, on a quand même l'occasion de dire des choses. Après, bon, c'est une chose d'avoir l'occasion. On est entendu, je trouve. Après, enfin, entendu. Voilà, on est entendu au sens où on a l'espace pour dire ce qu'on pense de la situation. Après, pour voir si on est vraiment entendu, il faudra attendre un peu.
Et alors, vu qu'il nous reste que 5 minutes, malheureusement.
Ouais. Oh là là, oui.
Et ouais, et moi, j'aimerais bien qu'on parle de ton livre aussi.
Oui, j'y tiens aussi.
Voilà, donc raconte-nous un peu. Moi, ce que je me demandais, c'est pourquoi avoir fait le choix de la fiction ?
J'ai fait le choix de la fiction parce que, d'une part, ça ne m'empêche pas, le fait de faire une fiction, ça ne m'empêche pas d'être très, très, très près de la réalité. C'est-à-dire que toutes les anecdotes que je raconte sont vraies. Et j'en rajoute d'autres, et je rajoute d'autres problématiques. Mais par contre, toutes les anecdotes vécues pendant la marche que je raconte sont vraies. Tout le parcours est vrai, tout est vrai, en fait. Et fidèle, et même chronologiquement fidèle. Donc, il y a une grande fidélité à l'histoire. Et ça, c'est évidemment ce qui me le permet, c'est d'avoir vécu cette histoire. Et puis j'ai souhaité utiliser la fiction parce que pour entraîner mes lecteurs, on va dire, pour parce que tout est vrai, mais je fais pas un profil des 30 marcheurs, parce que ça ce serait vite rasoir, personne, ce serait pas du tout intéressant. Ou alors il faudrait faire une somme, soit je dis 3 lignes sur chacun, bon, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, soit je fais une somme sur, je fais un bouquin de 1000 pages, et c'est pas possible. Donc je décide de prendre quelques personnages, et ces personnages-là sont des personnages autres, qui permettent d'aborder des problématiques qui n'ont pas forcément été abordées pendant la marche.
Comme quoi, par exemple ?
Voilà. Bah, par exemple, une famille de Nantes, dans la région de Nantes, qui est dans une petite ville moyenne, qui n'est pas concernée par la vie des cités, qui ne se sent pas spécialement stigmatisée, qui est relativement insérée, tout ça, et qui, à l'occasion de cette marche, mais qu'elle ignore d'ailleurs, jusqu'à ce qu'apparaisse, jusqu'à ce que tout le monde sache qu'il y a eu le crime d'Habib Krimzi. Donc quand il voit aux infos l'histoire du crime d'Habib Krimzi, et donc qu'ils apprennent aussi qu'une poignée de jeunes sont partis des Minguettes pour marcher, et bien tout d'un coup, ils comprennent le lien qu'il y a entre entre eux, cette famille, qui se croyait relativement protégée, mieux traitée. Et en fait, toute leur histoire revient en boomerang, en fait. Et c'est l'occasion pour le père de raconter à son fils comment s'est fait son arrivée en France, à partir du Maroc. Alors là, du coup, je fais même... il raconte comment ça s'est passé quand on est allé chercher dans son douar du Maroc. Enfin, voilà. Donc, ça me permet de dire des choses qui font partie quand même de cette histoire, mais qu'on n'a pas spécialement traitées au moment de la marche. Et puis, du coup, de parler le jeune aussi, qui lui a fait des études, parce que les marcheurs n'en ont pas fait, hein, des études, pour la plupart des minguettes, je veux dire. Donc, lui, ce jeune homme, a fait des études, mais à un moment donné, va se trouver confronté à tout un... Bon, là, j'ai pas le temps de raconter, mais j'en parle aussi, parce que pour moi, c'est hyper important de parler de cette ségrégation et de ce plafond de verre, quelque part, des représentations qu'on peut avoir dans certains milieux, et notamment à l'éducation nationale. Voilà, donc, et puis aussi d'aborder, par exemple, à un moment donné, il y a une conversation entre une jeune fille de harkis, enfin de parents de harkis, qui apprend par une jeune qui, elle, connaît le 17 octobre 61, parce que ses parents, enfin son oncle, a fait le 17 octobre 61. On est réchappé à Paris, et elle lui raconte à cette jeune qui connaît pas cette histoire, et puis elle dit ah bon, enfin voilà, donc c'est aussi l'occasion que dès parce que en fait l'immigration c'est il n'y a pas une immigration, il n'y a pas une histoire, chacun a son histoire, et donc qu'on soit d'une banlieue industrielle ou qu'on vienne d'un petit bled de France, c'est pas la même chose. La ségrégation ne s'exprime pas de la même manière, elle ne s'exerce pas de la même manière. Qu'on soit une jeune fille ou qu'on soit un jeune homme, c'est pas les mêmes processus de discrimination. Donc qu'on soit d'un lieu où l'immigration est minoritaire ou où elle est majoritaire, on subit pas, on n'est pas stigmatisé de la même manière. Et puis si on est enfant de, comme on dit, famille de harkis ou pas, c'est pas pareil, quoi. Et puis aussi on peut être jeune comme les Patrick Henry des Minguettes, qui a toujours vécu aux Minguettes, qui a aussi fait de la tôle aux Minguettes, enfin du moins avec des parce qu'il y a aussi ça, hein. Et pourtant ne pas s'appeler avoir un nom bien français et être concerné à 100% par la population que vit la jeunesse immigrée des Minguettes. Et j'avais envie de pouvoir parler de ça aussi. Voilà. Donc je parle, du coup, je remonte aussi au 17 octobre 61. Voilà. Parce que ça, je peux pas le faire porter par des personnages réels. Parce que c'est parce que eux, ils ont pu aborder le sujet, mais pas comme moi, je vais l'approfondir dans le livre.
D'accord.
Voilà. Rappelle-nous le nom de ton livre.
Alors, mon livre s'appelle En Marche. Alors, il y a beaucoup de livres qui sortent sur la marche et qui s'appellent La Marche. Donc, je voulais pas qu'il s'appelle aussi La Marche comme beaucoup d'autres. Et puis, En Marche, pour moi, c'est beaucoup plus dynamique. L'idée, c'est vraiment d'être encore en marche, quoi. Donc, c'est un titre dynamique. La photo est assez dynamique aussi, je trouve, la photo qui est en couverture du livre. Voilà. Et donc, moi, j'insiste vraiment sur le fait que c'est pas écrit sous la forme du témoignage, mais c'est quand même aussi un témoignage, parce que du coup, je voudrais pas qu'on croie que ma fiction a moins d'intérêt que d'autres témoignages qui ont pu sortir. Ça en a autant, hein, c'est-à-dire que ça passe vraiment par les mêmes étapes. En plus, vraiment à partir de Marseille, puisque j'ai eu la chance de commencer dès le début. L'intérêt de la richesse et la fidélité, on va dire, du témoignage, et en même temps la forme entraînante qui donne vraiment l'émotion aussi du récit qui donne de la chair au personnage, quoi.
Donc le titre, c'est En Marche, écrit donc par Marie-Laure, j'ai oublié ton nom de famille.
Garcia Mahé. Marie-Laure Garcia Mahé. Et chez Socris Édition. Socris, S-O-K-R-Y-S.
Ok.
Voilà.
Une toute petite maison d'édition.
Merci beaucoup, Marie-Laure, voilà, d'avoir passé cette heure avec nous.
Merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie.
Merci.
Et je vous dis à bientôt.